Bonjour à toutes les deux. Donc, je vois Frances Maurice, bonjour, et Camille Morino juste à côté sur mon écran. Je vais vous présenter brièvement et puis vous laisser la parole. Camille Morino, d'abord, vous êtes historienne de l'art, conservatrice du patrimoine, commissaire d'exposition, bien sûr. Vous avez exercé dans différentes institutions et notamment au Musée national d'art moderne à Paris, aux collections contemporaines, où vous avez présenté de nombreuses expositions. Donc, je ne vais pas toutes les relever ici. Je me souviens par exemple d'Yves Klein dans les années 2000, mais évidemment le projet le plus significatif pour ce qui nous rassemble aujourd'hui et dont Charlotte Fouché vient de parler, c'est l'exposition dans l'accrochage des collections, effectivement, elle, à Centre Pompidou, qui présentait uniquement des artistes femmes. Et pour parler justement des articles de cette période, c'est vrai qu'on voyait à cette époque dans Le Monde, par exemple, que vous les présentiez, ces artistes femmes, au risque de leur ghettoisation. C'est un terme qui m'avait marqué. Vous avez ensuite dirigé les collections et expositions de la Monnaie de Paris de 2016 à 2019. Et là, on peut parler notamment de l'exposition Women House, qui avait voyagé d'ailleurs aussi à Washington, au National Museum of Women in the Arts. Vous êtes présidente du conseil d'administration de l'École du Louvre depuis 2020 et vous présidez bien sûr l'association AWARE, dont vous allez nous parler aujourd'hui. Et Frances Maurice, bonjour, vous êtes aussi une historienne de l'art, conservatrice, directrice de la Tate Modern à Londres, formée à la Cambridge University et au Courtauld Institute. Vous avez rejoint la Tate comme conservatrice en 1987 et donc vous accompagnez depuis longtemps le développement de cette Tate Modern, son ouverture en 2000. Et vous avez succédé à Chris Dercon, donc en 2016, comme directrice de cette institution. Votre action dans cette institution, avant même votre nomination comme directrice, a permis à l'institution de s'ouvrir, de prendre en compte la nécessité de diversifier notre regard et nos connaissances, à la fois sur la représentation des femmes artistes, mais pas seulement, sur la diversité internationale, donc ethnique, sur les problématiques aussi qu'on vient de voir dans le numéro de l'ICOM LGBTI+, en France. Et autrement dit, vous avez placé le musée dans une position aussi de responsabilité dans la société, et c'est un point évidemment très très intéressant. J'ai lu une jolie citation de vous qui disait qu'il fallait aider l'art à aider le monde, et peut-être que vous allez nous en parler aujourd'hui. Je vais laisser la parole d'abord à Camille Morino. Camille.
Oui, bonjour Jeanne. Merci de cette introduction. Merci à Charlotte de ce magnifique parcours 19e, 20e sur la présence finalement assez importante des femmes modestes mais quand même prégnantes, comme tu l'as bien résumé. Alors, j'ai préparé un PowerPoint que j'ai envoyé à Émilie. J'espère qu'Émilie, vous pouvez le passer pour moi. Alors, ça sera beaucoup moins structuré, j'en suis désolée, que le magnifique discours de Charlotte. Je vais plus vous parler un petit peu de mon histoire et revenir effectivement sur ce moment de elle à Centre Pompidou. La raison pour laquelle j'ai fait cette exposition des collections, on l'appelait à l'époque Expo Collection. Et effectivement, les critiques ont été faites immédiatement, à la fois par des artistes, des critiques, des journalistes et des collègues aussi, qui me disaient, mais tu ghettoïses les artistes femmes. Alors, c'est pas vrai, hein, c'était un programme, une exposition collective que j'ai réalisée avec cinq collègues conservateurs historiens d'art du Centre Pompidou, Quentin Bajac, aujourd'hui directeur du musée du Jeu de Paume, Cécile Debray, directrice de l'Orangerie, Valérie Guillaume, qui est aujourd'hui directrice de Carnavalet, et Emma Lavigne, aujourd'hui présidente du Palais de Tokyo. Donc, c'était un travail collectif. Je veux bien qu'on passe à l'image suivante. Et pour revenir un petit peu sur l'histoire et la réception de elle, il y a eu effectivement pas mal de critiques au départ, et dont cette critique que vous rappelez, Jeanne, de ghettoïsation. qui est un mot assez, je dirais, qui vient du monde anglo-saxon et qui consiste à dire que finalement, les mettre les femmes dans un espace seul constitue une forme de ghetto, c'est-à-dire qu'on leur applique certainement des caractéristiques communes et surtout on les coupe du reste du monde. Et c'est vrai qu'on peut, on peut critiquer le fait de faire des expositions collectives d'artistes femmes sous cet angle-là. Ben, mon intervention d'aujourd'hui consiste à montrer l'importance, l'utilité et s'interroger sur la longévité ou la pérennité de cet exercice de rassembler des artistes femmes dans des expositions et ou dans une collection, comme je l'ai fait au moment du Centre Pompidou. Et cette idée aussi anglo-saxonne du safe space ou espace insécable, espace dans lequel les femmes se sont très longtemps réfugiées pour travailler, pour s'aider les unes les autres, puisqu'on retrouve en fait des éléments de sociabilité, mais aussi d'entraide très tôt, bien avant les années 1970, mais même plutôt un siècle auparavant, autour des années 1850-1870, où les femmes vont s'organiser entre elles afin que leur travail soit vu, soit éventuellement acheté, soit finalement montré d'une manière ou d'une autre. De telle sorte que cette idée de ghettoisation est aussi une manière, a été une manière pour les femmes de construire un espace spécifique de construction d'une histoire de l'art parallèle dont elles avaient conscience que cette histoire ne pouvait pas s'inscrire dans l'histoire principale ou ce qu'on appelle the main narrative. Mais c'est comme si ces femmes se positionnaient déjà en future historienne, laissant des traces pour les historiens et les historiennes du siècle suivant ou des siècles suivants, pour que cette histoire soit finalement réintégrée dans l'histoire principale. Donc c'est un petit peu le sujet de mon intervention d'aujourd'hui. C'est mon intervention à partir de elle, les différentes expositions que j'ai faites, et pourquoi je pense nécessaire et encore très utile aujourd'hui de montrer les artistes femmes sous forme de groupe, non pas toujours en leur assignant une quelconque spécificité, mais plutôt parce qu'il y a un rattrapage énorme à faire et qu'il faut retrouver les traces du travail de ces artistes, les réintégrer progressivement dans un discours commun, jusqu'au moment où, effectivement, il ne sera plus nécessaire de faire des expositions collectives d'artistes femmes, puisque l'information sera égale, je l'espère un jour, entre leur travail et le travail sur les artistes hommes, de telle sorte qu'elles apparaîtront naturellement à égalité dans les expositions collectives. Donc, pour en revenir à l'exposition Elle au Centre Pompidou, dont vous avez parlé, Charlotte, donc il s'agissait de montrer les collections. Donc, c'est un exercice assez contraint parce qu'il y avait dans les collections. J'ai donc montré 300 artistes, 1000 œuvres au cours de 3 éditions qui ont duré à peu près 2 ans. Et qui ont rassemblé 2,5 millions de visiteurs. Alors, le chiffre est important. Je pense que ce n'est pas forcément 2,5 millions de visiteurs uniques, mais beaucoup de ces visiteurs sont en réalité venus plusieurs fois parce que c'était une énorme exposition et que les informations qui étaient dans l'exposition, le nombre d'œuvres, les éditions aussi, invitaient à cette multivisite des visiteurs. Je crois qu'il reste une image de cette exposition. Pendant l'exposition Elle, ce qui s'est passé pour moi personnellement et professionnellement, c'est que j'ai été aspirée dans une sorte de vortex immense où on me demandait, aussi bien en France qu'à l'étranger, d'expliquer pourquoi j'avais fait Elle, de justifier mes choix, d'expliquer le cadre théorique de mon travail. Et j'étais dans une forme de position assez modeste et un peu effrayée, pour être tout à fait franche aujourd'hui, parce que j'étais obligée de dire que je n'avais pas les cadres théoriques, en fait, de cette exposition, que l'exposition avait constitué à justement reconstruire extrêmement vite, avec l'équipe des 5 conservateurs et conservatrices que j'ai citées, des théories qui n'existaient pas forcément, des vies pour lesquelles on avait peu de traces, ou des interprétations d'œuvres pour lesquelles il n'y avait pas eu de publication. Finalement, la conséquence la plus importante que j'ai tirée de l'expérience de Elle, c'est qu'il manquait l'information sur les artistes femmes. C'est que non seulement elles n'avaient pas été montrées, mais surtout rien n'avait été publié sur leur travail et que c'est finalement cette absence d'information qui expliquait leur invisibilité dans les musées, dans les livres. Parce que quand on voulait parler d'elles, quand on voulait les montrer, il manquait les outils les plus basiques pour faire le travail d'historien d'art ou de conservateur de musée. Donc, cette absence d'information est une des raisons pour lesquelles j'ai créé quelques années après EWARE, qui est un site internet dont d'ailleurs l'origine ou une sorte de primo-version a été faite pour elle, puisque elle était accompagnée d'un site internet qui a été fait d'ailleurs en collaboration avec l'INA et qui rassemblait à la fois les œuvres de l'exposition, mais aussi des biographies d'artistes précisément, des documentaires faits sur certaines de ces artistes sous forme de production du Centre Pompidou, des films d'archives de l'INA qui mettaient dans un contexte politique, économique et sociologique le travail de ces artistes. Comme l'a très justement rappelé Jeanne et Charlotte, elle s'est faite dans un contexte où il y avait effectivement un certain nombre d'expositions qui circulaient, plutôt féministes, mais au même moment, le MoMA faisait l'exercice sous forme d'une publication très importante de leur collection, qui s'appelait Modern Woman. Donc, il y avait une prise de conscience, effectivement, je dirais, dans ces années, à la fin de ces années 2000, de l'importance non seulement de montrer les artistes femmes, mais surtout de documenter leur travail. Donc, ça vous montre les quelques salles de cette exposition, elle, l'entrée avec les deux œuvres de Nikit Saint-Phal, qui ont d'ailleurs expliqué pourquoi, quelques années après, j'ai fait une exposition rétrospective de Nikit Saint-Phal. Parce qu'à force de passer devant ces deux œuvres, sur lesquelles précisément nous avions une documentation très quasi inexistante au musée, et je passais devant en me disant « mais ces œuvres sont féministes, la juxtaposition d'une prostituée et d'une mariée, ça veut dire quand même quelque chose dans le travail de Nikit Saint-Phal, pourquoi n'y a-t-il pas de livre ou d'article même sur le fait que Nikit Saint-Phal a été féministe ?» Et donc, c'est à force de passer devant ces œuvres des collections que j'ai eu envie de faire une exposition sur une partie qui était encore assez peu connue du travail de Nikit Saint-Phal, qui est son travail féministe. Sous cette image, une œuvre d'Orlan, pour le coup, une féministe tout à fait identifiée. Et c'est une œuvre que j'ai fait acquérir pour l'exposition Elle. Donc, ça a été évidemment, Elle, un moyen d'acquérir beaucoup d'œuvres qui sont entrées dans les collections. Et je rejoindrai ce que disait Charlotte sur la manière dont les œuvres rentrent dans les collections. Beaucoup d'œuvres d'artistes femmes sont rentrées par des dons, en fait. Une proportion assez effarante résulte de dons, alors que souvent les hommes sont plutôt achetés. Et à gauche, une salle qui s'appelait « Excentrique abstraction », qui reprenait le titre d'un livre de Lucie Lippard, où je montrais à la fois une œuvre de Kusama, une œuvre de Eva Esse, Liban Tekou, mais aussi l'œuvre d'une artiste plus contemporaine, Sylvia Béchli, afin d'essayer de tisser des liens entre des générations historiques et des générations plus récentes d'artistes femmes. Et c'est là où j'allais un petit peu contre ce qu'on me reprochait, l'idée de la ghettoisation. J'essayais, je me posais la question, sans pouvoir du tout y répondre à l'époque, de savoir si ces artistes femmes avaient tout de même des choses en commun dans la forme de leur travail, dans les matériaux, dans leur sujet. Donc, avançant dans cette… Donc, ça, c'est juste pour parler du fait que cette exposition, elle, a voyagé aux États-Unis, à Seattle et aussi au Brésil, avec à chaque fois, d'ailleurs, des formes différentes. Et j'ajoute que ces itinérances de elle ont été faites par Emma Lavigne, qui avait repris le flambeau quelques années après. Et voilà une petite image de ce site que j'avais réalisé avec l'INA, qui m'avait pris à peu près autant d'énergie et de temps en réalité que de faire l'exposition et de faire le catalogue, et qui m'a montré en fait que cet outil du site internet était probablement l'outil d'avenir pour passer de cet objet exposition collective à un objet qui soit un vrai outil de savoir, un outil de dissémination du savoir sur les artistes femmes et un moyen de rééquilibrer les informations entre les artistes hommes et les artistes femmes. Donc, j'ai fait quelques années après, comme je vous le racontais tout à l'heure, une exposition sur Nikit Saint-Phal où j'ai montré que c'était une artiste féministe et non seulement féministe, mais aussi féministe, comme on le dit aujourd'hui, intersectionnelle. C'est-à-dire que dès les années 60 et même dès la fin des années 50, Nikit Saint-Phal se pose la question de la faible représentation des femmes dans l'art, de leur absence dans l'espace public, et se pose aussi la question de l'absence de la représentation des personnes noire, pardon d'utiliser cette expression parce qu'elle l'utilisait elle-même, d'où la présence dans ces nanas, très souvent de nanas noires, comme vous le voyez sur cette image, où une nana blanche coexiste avec une nana noire. Et Nikita Saint-Phalle écrit des textes extrêmement clairs sur cette question dès les années 60. Alors, cet exercice de faire des expositions collectives d'artistes femmes, j'ai continué à le faire après elle, donc bravant cette critique qu'on me faisait toujours spécifiquement en France sur la ghettoisation des artistes femmes. Et d'une certaine manière, je me suis contredit moi-même en faisant Woman House à la Monnaie de Paris en 2017-2018, puisque je n'avais cessé de dire que ces artistes femmes n'avaient rien en commun, qu'il n'y avait pas un sujet, qu'il n'y avait rien à dire qui les rassemble entre elles, si ce n'est leur invisibilité ou leur sous-évaluation dans l'histoire de l'art. Eh bien, je me suis magnifiquement contredit avec l'exposition Woman House à la Monnaie de Paris, que j'ai d'ailleurs fait en collaboration avec Lucia Pesapan, qui prendra la parole tout à l'heure pour vous parler de Kiki Smith. C'était une exposition à laquelle j'avais pensé en réalité au moment de Elle, où je m'étais dit finalement, il y a quand même un sujet qui intéresse beaucoup d'artistes femmes, et notamment les féministes, qui est la représentation de l'espace domestique. Et c'est là où ça relie aussi très naturellement ce dont vous parlez, Charlotte, c'est-à-dire cet article célèbre de Gabby Porter, « Women and Domesticity in Museum », ben, il se trouve qu'en fait, ce sujet de la domesticité a été assez représenté par les artistes femmes et qu'elles en ont même fait un sujet de bataille pour beaucoup d'artistes féministes qui ont détourné ce sujet de l'artiste à la maison, l'artiste enfermé dans sa maison, et comment cette maison devient finalement le lieu d'émancipation, en passage du salon au studio, et finalement la création d'une typologie d'œuvres nouvelles. Et vous voyez par exemple, à gauche, l'œuvre d'entrée qui était la yourte de Neil Yalter, qui là aussi va mêler dans une sorte de pensée intersectionnelle à la fois la question de l'émigration et l'invisibilité des migrants avec le féminisme de Neil Yalter, ou à droite, l'araignée de Louise Bourgeois, qui est une réflexion sur la féminité, une féminité maternelle, aussi un peu effrayante, avec cette araignée enceinte qui porte ses œufs, mais qui aussi nous protège comme une espèce de maison, comme une sorte d'architecture de tente. Donc, il y avait ce fil rouge dans l'exposition, de la manière dont les femmes soit recréaient des maisons, soit s'en moquaient, soit détruisaient aussi les murs de la maison. Et je pense à la vidéo de Monica Bonvicini qu'on voit sur l'image en haut à droite, où on voit un bras qui frappe avec un marteau un mur afin de le détruire. Donc, j'ai continué cet exercice, toujours pour cette même raison que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que je pense qu'on est dans un moment de rattrapage où il est très important de continuer à faire des expositions collectives d'artistes femmes, parce que ce sont des moments où le savoir se partage, des moments où se posent des questions sur telle ou telle région, période, technique. J'ai fait notamment l'exercice au Havre avec une exposition qui s'appelait « L'autre continent, artistes femmes africaines », qui était une des premières expositions qui rassemblait des artistes femmes nées en Afrique, travaillant plus ou moins sur l'Afrique. Donc, c'était une relative, c'était dans un espace assez petit, mais un exercice qui m'a montré que cette invisibilité des femmes, elle était plus frappante dans certains continents, ou sur certains continents, comme l'Afrique, où là, le travail était assez énorme à faire. Et je suis d'ailleurs assez heureuse de le faire cette année à l'occasion de Africa 2020 au sein de l'association AWARE, puisque ça fait 2 ans qu'on travaille précisément sur l'histoire des artistes femmes africaines. D'où donc la création de AWARE, dont l'idée est née, comme je vous l'expliquais, au moment où je travaillais sur elle, c'est-à-dire dès 2008-2009, où je faisais ce premier site et où je me disais l'outil finalement pour sortir de cette inégalité d'information entre les hommes et les femmes, c'est d'avoir un lieu de ressources en fait qui soit partageable par tous, qui soit gratuit, et qui soit un lieu de construction du savoir, un lieu de partage du savoir, qui puisse être aussi utile aux historiens d'art, historiennes d'art, conservateurs, conservatrices de musées, critiques d'art, collectionneurs, galeristes, afin que tout le monde s'empare de cette histoire et d'une certaine manière la fasse fructifier. Donc, le site EOR est né de ce manque, en fait, cet outil qui m'avait manqué. Et je l'ai construit dans cette idée, image suivante, avec cette idée toute simple d'avoir à la fois un site et puis un lieu de ressources. Donc, vous avez des images d'un lieu qui est aujourd'hui fermé, qui est un centre de documentation à Paris. Nous avons aujourd'hui plus de 2500 références de livres dans toutes les langues et en réalité sous toutes les périodes. Donc là, on va au-delà du XXe siècle. Alors, j'ai noté plein de références le discours de Charlotte de livres que je n'ai pas encore et qu'il faut que j'achète. Donc, c'est vraiment là aussi un projet en devenir qui est né d'ailleurs du don de ma bibliothèque d'artistes femmes, de telle sorte d'ailleurs que je me suis retrouvée avec que deux livres sur les artistes hommes, ce qui a été tellement insupportable pour moi que j'ai fini par donner ces livres à la bibliothèque de l'École normale supérieure, à laquelle maintenant je me sens redevable parce que je me dis, bon, les élèves de l'École normale supérieure n'ont accès qu'à des artistes hommes, donc il faut que je donne des artistes femmes. Donc, je suis un peu dans un… voilà. Je me suis mis moi-même dans une position un peu inconfortable, mais je vais finir par trouver une solution. Bref, EOR, c'est donc aussi un site qui s'est construit à partir de l'idée toute simple de l'index. On y accède de manière alphabétique, mais aussi par période, par technique, par mots-clés. Et ces mots-clés, c'est pour moi finalement la chose la plus importante et utile du site EOR, parce que ces mots-clés permettent de replacer ces artistes femmes dans cette histoire commune, main narrative en anglais, les replacer en particulier dans les mouvements dont elles ont été expulsées par l'histoire de l'art, alors même que de leur vivant, elles faisaient partie pour l'une de l'impressionnisme, pour l'autre du cubisme, etc., etc., et qu'à l'époque, elles ne faisaient pas partie des catalogues, elles ne faisaient pas partie des commentaires des historiens d'art. Et donc, difficulté aujourd'hui, c'est de faire un travail théorique pour les replacer dans ces grands mouvements, dans les grands thèmes. Et c'est, je l'espère, le travail que feront les historiens et les historiennes qu'ils font aujourd'hui lorsqu'ils viennent chercher l'information sur le site EOR. Je constate d'ailleurs avec beaucoup de bonheur que les publications sur les artistes femmes se multiplient. On a presque un par jour, ou peut-être, non, j'exagère, un par semaine ou un par mois. En France, en langue française ou en langue anglaise, et j'imagine que beaucoup des auteurs ont puisé leurs ressources sur le site EOR, ce qui est évidemment l'objectif final. Donc, le site EOR, évidemment, tente d'être international. Alors, c'est un objectif très difficile à tenir parce que, comme je vous l'expliquais, il y a des régions du monde où l'information est tout simplement très difficile à retrouver, où les traces de ces artistes sont difficiles à retrouver, à reconstruire. On essaye d'être le plus en plus, d'égaliser aussi cette carte géographique. On a aujourd'hui plus de 700 notices biographiques sur le site. Il y a un magazine aussi où on fait paraître des articles de recherche de chercheurs en master, en thèse, et qui permettent d'enrichir et de soutenir aussi le travail de recherche dans le monde entier, puisque nos auteurs et nos autrices viennent du monde entier. Le site est bilingue, en français et en anglais, et c'est un site illustré, ce qui fait la grande différence avec Wikipédia. Nous faisons aussi des colloques et des journées d'études avec publication d'actes, et là, évidemment, ces actions reposent sur des partenariats très importants avec des musées et des universités. On a quelques exemples ici à l'écran, dont par exemple Elles font l'abstraction, une exposition qui, j'espère, va ouvrir bientôt au Centre Pompidou, avec laquelle nous avons collaboré sous la forme de notices biographiques, puisqu'on va publier au fur et à mesure des semaines de l'exposition les biographies des artistes qui sont dans l'exposition, et aussi un colloque réalisé main dans la main avec le Centre Pompidou, qui permettra de compléter finalement le contenu de l'exposition, faire apparaître des artistes qui, pour des raisons ou d'autres, n'ont pas pu être montrés dans l'exposition, ou compléter la publication du catalogue par des interventions d'autres chercheurs ou de chercheuses sur la question. Nous faisons aussi un prix donné à deux artistes, une artiste émergente et une artiste dont nous récompensons la carrière. Et pour ce prix d'honneur, le principe, c'est de donner le prix à des artistes qui n'ont pas encore eu de rétrospective en France, alors même qu'elles ont travaillé en France, puisque, comme vous le savez tous et toutes, l'histoire des artistes femmes, elles ont en commun d'être reconnues très tard dans leur travail, L'exemple de Louise Bourgeois étant probablement le plus connu, de telle sorte que bien souvent, la rétrospective arrive trop tard. Donc, on essaye justement de rendre visible le travail de ces artistes. Et je constate aussi avec plaisir que bien souvent, le pre-aware est suivi d'une rétrospective. Donc, on enclenche finalement ce travail rétrospectif sur ces artistes importantes et pas assez reconnues en France. À l'occasion du prix, nous faisons des publications, des entretiens pour les artistes qui ont reçu le prix d'honneur. Par exemple, l'entretien avec Julie Trigel qui vient juste de sortir il y a quelques jours, dont je suis très, très ravie de voir ici, et des colloques et des actes de colloques comme celui sur Argent féminin qui vient de paraître, qui est un colloque qui avait eu lieu 2 ans auparavant. Nous avons aussi réalisé plus récemment, et là c'est vraiment une opération qui a eu lieu pendant le confinement, des typologies, on va dire, d'informations ou des objets de savoir destinés à un public plus large, parce que j'avais aussi ce sentiment ou cette certitude que le site aware fonctionnait, mais fonctionnait dans un monde universitaire, un monde de spécialistes, soit les conservateurs, conservatrices de musées, soit les historiens, les historiennes d'art, et j'avais envie d'aller plus loin, d'aller en direction des scolaires, des enfants confinés, de ces professeurs qui avaient besoin aussi de matériel pour parler des artistes femmes, pour parler d'une histoire plus juste. Donc, on a produit des podcasts, mais aussi des séries animées. Alors, des podcasts qui allaient un petit peu, qui faisaient un pas de côté sur une histoire littéraire, puisque j'ai voulu parler du confinement à l'intérieur de la littérature. Le confinement étant souvent finalement aussi une manière de travailler pour les artistes qui écrivent ou les artistes femmes tout court. Et plus récemment, j'ai lancé une série de podcasts à partir des archives de l'INA pour essayer de retrouver la voix des artistes. Je savais que Nikki de Saint-Phalle s'était beaucoup exprimée à la radio, mais j'ai découvert que beaucoup d'artistes femmes importantes ont été malgré tout interviewées et qu'on retrouve avec leur voix, un discours, une sorte d'incarnation, une présence de leur vie, de leur œuvre tout à fait importante et qui permet aussi, grâce au podcast, d'être partagée à des publics qui ne sont pas forcément des publics, là aussi, spécialistes d'histoire de l'art. Nous avons aussi créé, pendant le confinement, des parcours thématiques qui sont des manières de visiter le site à partir de grandes questions. Vous avez ici quelques exemples de ces questions ou de ces thèmes qui permettent à un public non spécialiste en histoire de l'art de naviguer sur le site et pourquoi pas là aussi à des professeurs de collège, de lycée, d'examiner certains des thèmes, puisque certains des thèmes qu'on a choisis sont liés à des programmes scolaires, terminale, seconde, bac, etc. Et ça permet donc aussi, donc ils sont toujours bilingues, d'élargir notre public et de fait, nous avons multiplié par 2 le nombre de visiteurs sur le site. On est passé à une moyenne de 20 000 visiteurs par mois, à une moyenne de 40 000, voire même plus récemment, de 50 000 visiteurs par mois sur le site aware, qui est une série que j'ai réalisée à l'attention des enfants de 7-9 ans, qui sont des petits films animés. Là aussi, c'était au moment du confinement et j'avais ce souci de m'adresser à des enfants bloqués chez eux ou des professeurs obligés de travailler avec le matériel qu'ils avaient sous la main. Et on sait bien que les manuels aujourd'hui citent très peu d'artistes femmes, que les quelques films réalisés pour les enfants étaient des films réalisés uniquement sur les artistes hommes. Donc là aussi, c'est cette volonté de rendre plus égale l'information entre les artistes femmes et les artistes hommes avec des petits films destinés aux enfants. Donc vous voyez que le choix des artistes est assez large. Il y a des artistes très connus comme Camille Claudel, Ilma Flint, dont on vient de découvrir le fait qu'elle a en réalité inventé l'abstraction, ou par Dora Maar, beaucoup plus connue, Natalia Goncharova, assez connue aussi, ou à droite, son nom n'apparaît pas, Augusta Savage, qui est une sculptrice noire qui s'est formée à Paris dans les années 20 et qui est revenue aux États-Unis dans les années 40 et qui a été une des fondatrices de l'école de Harlem. Donc, montrer aussi comment ces artistes femmes ont été de leur vivant, au-delà d'être seulement des artistes, des soutiens d'autres femmes, importantes dans des mouvements, inventant des grandes tendances, comme l'abstraction par exemple. Donc, la force et la prégnance de ces artistes. Aujourd'hui, aware repose sur une véritable équipe internationale à laquelle on a donné un nom, ça s'appelle TEAM. Ça repose sur une quinzaine de professeurs d'université qui chacun vont travailler avec 5 étudiants et qui vont faire passer ces étudiants d'étudiants à auteurs, puisque ces étudiants signent des textes, des biographies ou des articles de recherche, ce qui permet à une nouvelle génération de chercheurs et de chercheuses de se saisir de cette question et, je l'espère, là aussi, de transformer le monde de demain en un monde plus juste, plus égalitaire, où ces futurs historiens, historiennes d'art, commissaires d'exposition, critiques, auront en tête cette présence des artistes femmes dans l'histoire. Donc, je suis arrivée au bout de ma présentation sur cette question du safe space pour conclure sur le fait que oui, il est utile. Le mot fatalité, non, il est important. Il n'est pas forcément pérenne ou nécessaire, mais en tout cas, dans les années qui viennent, il me semble encore nécessaire d'avoir cet espace spécifique de réflexion, de partage du savoir pour que l'histoire des artistes femmes continue à se construire. Merci beaucoup de votre attention.
Merci Camille Morino pour ce partage d'expérience et puis des actions évidemment menées depuis des années en faveur de la connaissance sur les artistes femmes. On va passer la parole à Frances Maurice.
Thank you. Well, it's very nice to join you this morning, and I have to say I've been luxuriating in Camille's presentation because she's been such an important person in my recent life and this adventure of exposing great women artists and providing this new attention to art history. And to see the story of Aware, which I heard about very early on, the extraordinary achievements of the site and the amazing attention that it has brought to the work of great women artists from many decades. So I commend Camille, and it's good to be here. I'm really going to talk, I suppose, about the case study of Tate Modern, of Tate. I've been at the Tate for many years, so I've had the opportunity to be involved in a really slow but kind of monumental shift in what a museum collection can do and the stories it can represent. And I begin with this rather facetious title, Women Rule at Tate Modern, but I do believe very strongly that leadership is the key. I mean, art history is a constructed story and constructed by architects. We know most of them were men, and now we are the women. So who are the architects of the new art history? And they are here talking this morning. And it's great to be part of this generation that really is, I think, making a difference. I became, as you mentioned in your opening remarks, director of Tate Modern in 2016, but I have been involved in Tate since the late 1980s. But becoming director enabled me finally to make some critical decisions. And one of those decisions I took was that in the new Tate Modern, which we opened in that year with a new building, the Blavatnik building, we would aspire to a 50-50 representation of gender across the buildings in terms of the kind of monographic displays. And for me, that was a non-negotiable, it was just a ruling. That's what I said to the curators, we're going to do this. I remember my then over general director, Nick Sirota, saying, Frances, do you really mean to say you're going to leave out Twombly from the hang? And I said, yes, we're leaving out Twombly because we're including Louise Bourgeois. But what was so interesting after many, many years of that kind of critique of what we were doing around women, the press were extraordinary. You know, watch Women Rule at the new Tate Modern, but myriad ways of showing art history. A big switch lifts the pioneers without losing old favorites. The next generation will understand that, you know, great art was made by women as well as men. And for me, this was just the first moment that we saw this pivoting away from the kind of celebration of the ghetto to the idea that actually art history had a bigger context. And it's that into both spotlighting and integrating and integrating, changing the narratives of art history that I have been, I suppose, particularly interested in. And I just want to start the conversation by looking back at the history of Tate. And this is a slide from our centenary display in 1992, I think, or 1993. Tate was 100 years old. And I had been at Tate for 5 years, and I had been really focusing on bringing major contemporary female artists into the collection, people like Mona Hatoum, Rachel Whiteread. This was the era of the YBAs, for example, Helen Chadwick. But also I was beginning to prepare a show which was then called Paris Post-War, and the signature artist was Germaine Richier. But when our new accrochage to celebrate the centenary was decided by the senior team, I was a very junior curator at that time, and the top 100 were identified as the works that we were going to have postcards made of, that were going to be on the posters, that were going to have the labels. Of those top 100, there were three works of art by women, three by two women, both British, one Barbara Hepworth, and the other was, I can't even remember who the other was. So an extraordinary list and a mission. And this gives you a sense of why that happened. This is a hand-drawn layout of the galleries at the old Tate, the Tate Millbank, which is now Tate Britain. And what you see very simply, if I can use my arrow, is a kind of quite parochial integration of British art with the kind of mainstream stories of Western European and North American art, hung chronologically according to the absolute kind of classic Alfred Barr-isms. And we know those isms are privileged around a set of principally male superstars. And it's a story of modernism that really focuses in on stylistic and formal innovation. It's a story that pans out over time, and it's a story of a kind of competition towards innovation. And you see the language here used, primitive and modern. This wasn't so long after Pompidou's great Magicien de la Terre exhibition. You see the use here, European masters, 1920, 1950. And you see, so British art, then the integration of French art, and a little bit of German pre-war art. And then we have a kind of post-war abstraction in Paris, post-war realism in Britain. You get this interplay between realism and abstraction. And then the switch from Paris to America, Newman and Smith, de Kooning. And then, interestingly, as you move into the 60s and 70s, it's German art that comes to the fore. And it's so interesting, this interplay between art history, the critical voices and the art historians who are writing about the 20th century, and of course the marketplace. And that marketplace moves from Paris to New York and then to Germany. All that is absolutely matched in this hang, so that you could see very clearly the architecture of art history that was present at Tate when I joined it at the end of the 1980s. And that too was then reflected in the gender base of the collection. And this is the collection as it existed in 2000, 88% of works in the collection by men and only 11% by women. Group two is, and then there's this unknown quantity. And this was the percentage, the kind of a slice of the cake when we began working on the great project of a museum at Tate Modern. And the curatorial team, coming back to leadership for the project, was myself, Ivona Blaswick, who is now the director of the Whitechapel Gallery in London, and Carol Howell, who is the director of the Foundling Museum. So there were three young women, all of whom would have described themselves as feminists, charged with finding a way to think about how to hang, think of the accrochage for the new museum. And we were very conscious that if we were going to break open this kind of stranglehold of art history, which was excluding women from that top 100, we actually had to find a different template for talking about art history. And I won't spend a lot of time talking about this, but it was that moment at the end of the 90s where we decided that the only way to go forward was actually to step away from the chronology, because it was within the chronology that the very strong attachment to kind of modernist isms was inscribed. And if we could find another structure, we could open up art history to a whole set of new narratives. And I use the word narrative very specifically because narrative, content, subject matter, identity, politics is all absent from that mainstream narrative of formalist art history. And that's why we chose a non-chronological thematic structure for our displays, which was massively criticized at the time. But what begins as criticism turns out 20 years later to be commendation, and in some ways was a kind of landmark opening up of the canon, an exploding of the canon. Louise Bourgeois was the first artist commissioned for our great Turbine Hall. This is her great Spider Maman, and these are the three towers she made for the east end of the Turbine Hall. I do, I undo, I redo. And choosing Bourgeois for that first commission was a kind of political statement, a statement of commitment to an artist who was the oldest of young artists, the youngest of old, but whose work had touched on, influenced, and in turn been influenced by almost every modernist ism of the 20th century, from surrealism through minimalism to postmodernism. And yet she had never been part of those narratives, always on the margins, always surfing the crest of a wave, pushing, but never part of the mainstream. So I do, I redo, I undo that idea that art history doesn't go in a linear pattern. It moves backwards and forwards. It returns on itself, that artists go back to the beginning of their careers. It was really an attempt to sort of undermine many of the kind of structures and systems underpinning that art history. Of course, all that was something that we held close to our hearts. For the general public, the message was we're opening this new museum with, in our view, the most powerful and important artist of the 20th century, who is also fit for purpose to open up the narrative for the 21st century. When we opened, again, we took a strategic institutional decision to make many more proportionally, basically to adopt positive discrimination. In a few slides ago, I just showed you that slice was, you know, 9-10% of the collection was women, but the proportion that we chose to put on display was 29%. So women were very, very prominent in that opening hang. Interestingly, completely unnoticed by visitors or press, but it really was the fact that we gave women a very, very prominent position. Over the last, this is now a snapshot of the last 5 years, that has now increased to 40%. And there was that wonderful moment in 2016 where we actually created a parity with 50%. And those of you who have worked in museums will know the multiple pressures on museum collections to honor donations, to comply with contractual obligations in relation to gifts, to keep your merchandise and teams happy by having the great works by the great artist to sell the hugest number of postcards. But I'm nevertheless very proud that over that 20-year period, we have managed to maintain this continuous growing presence of female women in the collection displays. And that's incredibly important. At Tate Modern, we, unlike Pompidou and other European museums, we are a free entry museum. You pay to see exhibitions. So any temporary exhibition we do, you have to, is ticketed. So our exhibitions have quite small audiences, but our permanent collection is viewed by 5 or 6 million people a year. So just as Camille is receiving millions of visits to the Aware website, over 20 years, we have had, you know, multi-millions of visitors to see a different kind of art history, and one that is significantly repurposed in terms of gender. Over that same period since we opened Tate Modern, the collection has grown hugely in scope, from 777 artists in 2000 to over 4,000 artists in 2020. And that growth has been driven by another a really key ambition, which was mentioned earlier. And this is to diversify the collection in terms of race and geography, as well as in terms of media. That early, the early slides of the collection I showed you, Tate really was a collection principally of painting and sculpture and works on paper. And over the course of the last two decades, we've embraced photography, performance, participatory practice, installation, film, and so on. Then again, in 2000, the collection was absolutely firmly rooted, as I said, in a kind of the NATO alliance of North America and Western Europe. From 2001 through to 2012, we slowly began to build on that by beginning to focus on centers of productivity, regardless of geography, so that it was no longer a collection defined by geography. But once you take away that kind of, I mean, we all know that history has been principally, art history, principally written in terms of national histories and the intersections between national histories. And in wanting to reflect a kind of an art history that reflected the demographic of London, the demographic of the UK, and after all, London is one of the most diverse cities racially in the world, with almost, I think, a 50-50 white-black population now, it was incredibly important to us to begin to reflect that diversity in the collection. But how to do that without creating, you know, parallel art histories of American art, of Latin American art, of African art, and so on and so forth. So over that period of time, we have worked on a kind of new, I suppose, theoretical structure. And this is this notion of a kind of transnational art history. This is the front, the landing page of our website around our research center around transnational, which those of you who are interested in the kind of intersectionality of gender and race, or of how art histories connect over time and geography, this is an amazing resource of real deep scholarship, but also scholarship that has manifested itself in, you know, actual deliverable outcomes like acquisitions and exhibitions. But transnational is really a way of understanding and curating that encourages that art artists and art histories are connected beyond their countries of origin. So the word transnational itself encourages us to challenge and revise dominant art histories by highlighting the global exchanges and the flow of artists and ideas. And it was by taking this notion of the transnational that really we have helped, that has helped us build a collection that is more diverse in multiple ways, both in the gender of artists, but the types of practice and the way they intersect over time and through place. And that has helped us build a program of acquisitions that is much, much more a female now. So at this moment in time, 33% of acquisitions are by men, and that we could not, are by women. We could not have achieved that, I think, without exiting from the kind of classic modernist art historical framework. And what has been really interesting is that in looking at other parts of the world without that kind of modernist lens, we have, just as Camille's team are making their discoveries, we have been able to bring into the collection really powerful artists who have been, over many decades, really relegated to the margins. And I speak about somebody like Salawat Rueda Shuker, an extraordinary Lebanese sculptor and artist, but her visibility up until this point was really relegated to one of those international artists who just happened to be in Paris and within Ferdinand Léger's academy. But actually, in returning home to Beirut, she then had this extraordinary career, highly influential, hugely original, and absolutely taking the narrative around formal abstraction into a very, very different place. So expanding the meanings of art history. And it's that expansion, opening up art history, that I think is so empowering. We need new narratives. The world needs new narratives. The next generation needs to be empowered with histories that relate their life experience. So in doing what we've done, we haven't added small numbers of works by many female. We've tended to focus on prominent, really signature works that have created anchor points in the collection to bring quickly introduce these great mistresses into the world of the masterpiece. So, and they come from all over the world. Anna Lupaș, extraordinary Romanian participatory community activist in the 1970s and 80s. Magdalena Abakanovic from Poland, a fiber artist, hugely influential globally. Jane Alexander, extraordinary South African artist of the late 90s, early 20th century. This is her absolute, her masterpiece, African Adventure. Sarah Zee, and I'm just showing you Sheila Gowda, a Bangalore-based Indian sculptor, installation maker, Sol LeWitt, Hege Yang, Corinne. One of the really distinctive things about many of these artists is that they all had transnational careers. You know, Hege Yang, working in Europe and America, but Korean-born, whose work is interfacing with both Eastern and American notions of modernity. So absolutely defying those, breaking down those conventional structures of art history. But at the same time, we then have to look back to those familiar art historical narratives. And we've been trying to do that at Tate Modern across the whole remit of the historical period. So here's the current hang of surrealism, which we have opened up in time to be able to include Louise Bourgeois' pioneering work. I mean, why should surrealism end in 1935? There's absolutely no reason at all apart from the person who wrote the book. But Dorothea Tanning's pioneering work in that field too. These works are really major contributions to global surrealism. The disappearing figure, art after catastrophe. This is a hang that puts Germaine Richier at centre, always seen on the margins of that kind of debate in French art between abstraction and figuration. Here she is at the centre of a different feel for that period, this kind of development globally of a kind of hybrid figuration that you see coming through, both in work from Africa. There's Ibrahim El Salahi, extraordinary Sudanese artist on the left-hand side of your screen, but also Lee Krasner and again, Dorothea Tanning. So opening up these narratives to a new sense of how artists interconnect across many different contexts and continents. Just quickly to show the before and after, minimalism is an area where Tate's collection is extraordinarily strong. For historic reasons, we were very attached to American art in the 1960s, American collectors. And this is a display that I was involved in doing myself in 2006. And I was very proud of bringing Jo Baer, you can just see her on the left-hand side, into that classic male American narrative. Baer, as a painter, was always excluded from that narrative. But of course, 10 years on, with a really a different perspective and thinking about challenging those frameworks of geography and time, when we opened our new extension in 2016, we opened it with a kind of complete reconceptualization of minimalism that understood that across the world, in a very similar time frame, artists were challenging that intersection between the domestic and the abstract, that architecture and the home and materiality, the phenomenological, the relationship of objects in space in a really interesting way. So from Charlotte Posnenska to Carl André to Salawat Rewedeshukair to Tony Cragg and on to Yayu Kusama, a whole the world changed. And it wasn't just something that was born and bred in America. But just as Americans invented the term minimalism, we then also wanted to give place to isms that belong to women. And we were persuaded by the Guerrilla Girls to do a feminism display. They said, feminism isn't part of art history, but it is an ism. And so on the back of that, we inscribed feminism. It became briefly the only ism that we focused on. Just briefly to touch on exhibitions, I know I'm running out of time. Of course, the interplay between exhibitions and accrochage collection is key, but we've taken very much the same approach to lift the unknown to the same level. So here we see that in a great commitment to women from Kusama to Shuker, to Tanning, to Farinese Azaid, well-known women and women that have barely touched the consciousness of art lovers. And again, this sense that we're opening up art history, Shuker and Farinese Azaid never been part of that mainstream Western narrative, but extraordinarily popular, fabulous shows. Again, just to quickly show you exhibition attendance, and this is since 2000, this is all the women exhibitions we have done. And it, although you see the, of course, the peaks with Georgia O'Keeffe and Frida Kahlo, but nevertheless, slowly, a really interesting mounting interest and confidence in audiences to see exhibitions by unknown women. And this is one of the things I'm most proud of, that if you stick at it long enough, the public will you'll build the confidence and trust in your public to take your advice, to see that what you're saying is important is important. And this is what I think this is the most important thing we can do, is just keep at it. And for the internal critics who say these shows aren't driving enough audiences, actually they are beginning to, and they are beginning to pull their weight. And all that feeds into their wider exposure, their place in the marketplace, the number of postcards we sell, et cetera, et cetera. As I said earlier, it's always difficult. It's always, when you're working in a kind of commercial environment, you can't always just push the things that you know, from which you derive less income. But what one of the things we've done at Tate Modern is we've balanced the imbalance in ticketed displays by using other aspects of our program to increase the prominence, the profile of women artists, and in particular with our Turbine Hall. So over the last few years, it's the Turbine Hall commissions. This is Tanya Bruguera, 3 years ago in our Natalie Bell building, and then Cara Walker last year. And this year, Yannicka Yee is the artist commission. So we balance the profile, always thinking, if we've only got 30% where can we even up that narrative? So we create this continuing commitment, continuous visibility, never let it go. And there, just to show you and almost end on how that pans out in terms of run right through the visibility. So here we have, this is just a trial of our the banners that we reopen with in May, when the museum finally reopens. The big show, of course, inevitably is Rodin. That's where the ticket sales will be made. But I absolutely insist on the profile being equal, if not greater, for the great other artists on display. Zanelli Moholy, an extraordinary retrospective coming to Paris soon, and Yayu Kusama, a very small exhibition, which will loom very large in the public's imagination. And just really to end where I began, is that leadership is really key here. And I'm very fortunate to now have a general director, Marie Balshaw, who is absolutely aligned with that commitment to gender, but also two great female colleagues at other Tates, Anne Barlow at Tate St. Ives and Helen Legg at Tate Liverpool. And Alex Farquharson in the middle there is a fellow traveler and a great ally to the feminist cause. And on that note, I shall finish this presentation. Thank you very much.
Thank you very much. Well, thank you very much for this presentation. It was very inspiring. You said the word empowerment, which I think is really important for us all. Maybe I'm going to switch to French because you understand French more than I speak English. Alors, je vais peut-être commencer avec les questions. Vous avez dit des choses très importantes sur le leadership, sur le fait que être directrice a changé les choses pour vous, parce qu'à un moment, vous avez dû imposer aussi des choix. Et vous montrez un homme dans cette équipe directoriale. Et Camille Moreno, vous avez parlé aussi de Quentin Bajac dans l'équipe qui a été mobilisée autour de elle à Centre Pompidou. Mais comme nous ne sommes que des femmes à parler ce matin, j'avais quand même envie de vous poser la question. Est-ce que vous pensez que ce sujet est assez partagé, que les hommes qui sont à des positions de direction majoritairement, sont des alliés pour vous? Est-ce que dans votre expérience personnelle, justement, leur engagement dans cette représentation des femmes a été importante, et est-ce qu'elle grandit?
Je réponds peut-être d'abord pour rappeler que Elle, à Centre Pompidou, a été fait au moment où Alfred Pacman était directeur du musée, qui a été vraiment la personne qui a décidé, qui a mis son tampon sur le projet, qui m'a soutenue un peu contre vents et marées. Et aujourd'hui, dans la gouvernance de WER, j'ai le même exercice que Frances Maurice. J'essaye d'avoir autant d'hommes que de femmes. C'est très important pour moi, en fait, d'avoir une diversité de pensées dans mon comité scientifique, dans mon comité, même dans les organes de gouvernance, dans mon bureau, dans mon AG. Même si les fondatrices de WER ne sont que des femmes, je trouve important de continuer à avoir des hommes parce que d'abord, il faut que beaucoup de ces hommes sont féministes. Et j'ai fait le même exercice pour les premiers mécènes de l'association, autant d'hommes que de femmes, de soutenir l'association. Je pense qu'il y a aujourd'hui une génération d'hommes un peu de nos âges qui reconnaissent l'importance et quelquefois un peu leurs propres erreurs d'une certaine manière et qui sont prêts à s'amender. Et je trouve qu'il faut les laisser revenir dans l'histoire, ainsi qu'une génération pour le coup de jeunes historiens qui trouvent absolument normal de s'intéresser aux artistes femmes. Donc voilà ce que j'aurais envie de dire.
I would agree with that. I mean, I think for me, one of the interesting things and important things that has happened is the agenda around race and diversity has massively facilitated the engagement of men in the gender, in commitment to a gender balance as well. And what has been interesting is that and our collection at Tate Modern is now, we have a man in charge of, Gregor Muir, who's the director of the International Collection. His role has been to really explore global narratives or transnational narratives that open up art history to different contexts and a different type of engagement with both the local and the global. And what I think he's found interesting is that pursuit has led him to different types of practice, many of which are actually led historically by women. So one area of real exploration at Tate has become around the interface between fine art and craft through the medium of textiles, where undoubtedly historically women have dominated. It's not exclusive, but it's an area where, for obvious reasons, women have excelled. We have found the same thing. We have a very strong commitment to performance and live art at Tate. And the same thing has appeared, that as you begin to work with contemporary figures, performance artists, in the museum, you also then want to document and collect and contextualize the history. And there too, we're finding that it is principally women who are driving innovation there. So so the borders are coming down in across in terms of medium practice, across geographical borders and through gender. And the intersectionality of that seems to me the very so important that it is simply not possible any longer not to embrace how do I say it? It's not possible to gender discriminate any longer and be an art historian.
Thank you very much. I think, Charlotte, j'ai une question pour vous. Où sont les luttes des femmes, droit de vote, avortement, contraception dans les musées français? Si elles n'y sont pas, comment l'expliquez-vous?
Alors, c'est une bonne question. Alors, en tout cas, il y a une vraie, dans les années 70, c'est ce qu'a montré notamment les travaux de Fabienne Dumont, il y a des vrais liens entre les collectifs d'artistes femmes et les mouvements de libération des femmes, où il va y avoir des lieux comme des revues, des galeries qui vont exposer les artistes femmes, qui vont être aussi très, évidemment, qui vont instiller dans leurs œuvres ces thématiques-là, sociétales, sur l'avortement, la contraception, l'indépendance aussi, l'émancipation. Alors après, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas... les musées ne proposent pas d'expositions qui s'affichent comme telles, avec comme thématique l'avortement, la contraception, etc. Mais à l'intérieur des œuvres d'artistes femmes, de certaines artistes femmes, on peut observer la présence de ces thématiques. Hein. Donc, il faudrait peut-être aussi regarder du côté des musées de société, ne pas se focaliser que sur les musées des beaux-arts, mais aller regarder du côté d'autres musées, comme des musées d'histoire ou des musées de société. J'en ai pas en tête, j'ai pas en tête d'exposition sur ces questions-là. Il y avait eu l'exposition Naissance qui avait eu lieu au Musée de l'Homme et qui était vraiment sur justement la grossesse, qui sans doute devait aborder cette question de la contraception. Peut-être effectivement regarder du côté d'autres types de musées. Et ces thématiques ne sont pas absentes, mais je ressens pas forcément d'exposition qui aborde précisément cette question des luttes des femmes. Mais c'est absent, c'est présent dans les œuvres.
Merci Charlotte. Je lis pour tous l'intervention d'Agnès Salle, qui nous dit qu'elle a beaucoup apprécié vos interventions et qu'elle signale, initiative à laquelle Camille Morino est associée, qu'il y a avec le service des musées de France un groupe de travail composé d'une quinzaine de musées nationaux et territoriaux qui contribue à poser les bases d'une réflexion et d'une action sur la thématique de l'égalité dans les musées, dans les collections, dans les expositions, dans les acquisitions, dans la médiation, etc. Et qu'on peut donc se réjouir de l'engagement d'un nombre considérable d'institutions à court terme sur ces enjeux majeurs. Donc, merci pour cette remarque, Agnès Salle. Je rebondis d'ailleurs sur l'engagement des institutions, sur quelque chose que vous avez dit toutes les deux, qui me semble assez remarquable dans vos expériences. Camille Morino, pour Elle Adsante Pompidou, vous avez parlé de 2,5 millions de visiteurs, qu'ils soient uniques ou qu'ils soient revenus pour voir l'exposition dans son évolution. Frances Maurice, vous avez parlé d'un retour incroyable de la presse et de la confiance du public dans la monstration de la diversité, et donc notamment des femmes. Est-ce que pour vous, enfin, moi j'ai eu l'impression en tout cas dans vos discours que c'était un point aussi d'optimisme, pour reprendre le terme d'Agnès Salle, puisque finalement on a l'impression que le travail qui doit continuer, vous l'avez dit Frances Maurice, c'est presque un travail à faire sur nous-mêmes, parce que le public, lui, et la presse sont réceptifs finalement à ces nouvelles présentations.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Jeanne. C'est vrai que l'expérience, on l'a fait, Frances et moi, hein, c'est que, qu'elles soient les collections ou les expositions, ont du succès. Et cette initiative, effectivement, montée sous l'égide d'Agnès Salle, de différents musées, qui sont des musées des Beaux-Arts et des musées, montre qu'en fait, aujourd'hui, les institutions, dirigées par des hommes et par des femmes, ont envie de faire ce travail aussi parce que ça répond à une attente du public, y compris des musées qui n'ont rien dans leur collection, puisqu'on a réfléchi à ça dans ce groupe de réflexion nationale. Des musées qui n'ont pas d'artistes femmes dans leur collection arrivent quand même à parler des femmes en parlant de la représentation des femmes importantes, par exemple, ou la manière aussi de parler dans la médiation du genre, enfin autant de moyens de finalement correspondre et interagir avec un public qui a envie, qui a besoin aujourd'hui d'une plus grande égalité, d'une plus grande diversité.
Yes, I agree. I think it's a very exciting moment. And I think that the intersection of the public sector and the private sector, it is amazing to see how many commercial galleries are now taking on and representing extraordinary women, many of whom do not have the, you know, the back history, the track records that their male counterparts would have. And that kind of representation across the whole the cultural scene is very important. But I do think that it is incredibly important that collecting institutions take on board the need to fundamentally root those narratives in their collections, because collecting is legacy, it's where scholarship accrues. It's where the long-term value resides. And you can choose exhibitions, you can do very short-term programs, but if you really want to fundamentally change the nature of the way we understand art, the collections are key. What I want to see when you go to other museums is not just that commitment reflected in exhibition programs, but in the accrochage, in the collections themselves, and the stories that curators tell.
Merci beaucoup. J'ai une autre question de Laure Pressac qui pose la question donc des approches nationales, entre guillemets. Est-ce qu'il y a dans le temps une approche vraiment nationalement marquée qui se maintient, donc une approche anglo-saxonne contre une approche française, par exemple, sur ce sujet? Est-ce qu'il y a une temporalité de ces approches, donc une avance pour les pays anglo-saxons et à contrario, un retard en France notamment, ou est-ce qu'une sorte de convergence de méthodes et d'intérêts se dessine, et qu'en est-il d'autres pays en Allemagne, mais aussi dans des aires géographiques différentes en Asie ou en Afrique?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce concept central que Frances Maurice a dessiné, qui est l'idée de transnationalité. C'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup frappée dans la vie des artistes femmes, et peut-être même que plus que les artistes hommes, je ne sais pas, qui ont plus bougé. Est-ce qu'elles étaient plus libres ou obligées de bouger pour se faire connaître? Je ne sais pas, mais c'est un sujet pour moi qui serait un magnifique sujet de colloque, d'ailleurs, de recherche sur ce thème-là. Et de fait, du coup, je pense que tous les gens qui hommes et femmes qui s'intéressent aux artistes femmes travaillent de manière très transnationale. On est obligé de le faire parce que les artistes nous y aiment. Je pense aujourd'hui que la France est vraiment tout à fait au niveau en termes de méthode et de réflexion. On le voit avec avec le panel d'aujourd'hui. Et on travaille main dans la main, c'est plutôt de manière personnelle avec tel ou tel collègue comme Frances Maurice ou tel collègue aux États-Unis ou en Allemagne ou en Asie que le sujet intéresse. Je dirais que c'est aussi des histoires de personnes, il faut le rappeler, hein, de gens qui se sont engagés comme Frances depuis des années, d'abord pour acheter les artistes femmes, puis pour les montrer en tant que directrice. Il faut rappeler ça quand même aussi, qu'il y a des personnes qui portent ces projets.
Peut-être aussi pour répondre d'une manière plus historique sur les choses. Effectivement, par exemple, ce qu'a montré le master de Justine Bobot entre l'histoire des expositions d'artistes femmes aux États-Unis et ce qui s'est passé en France, où je vous ai dit que justement dans les années 70, il y a bien des expositions d'artistes femmes, mais elles n'arrivent pas véritablement à gagner en visibilité et à faire date. Aux États-Unis, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a l'exposition de Linda Nochlin et Anne Sutherland Harris 1976, qui pose un jalon important, et toutes les expositions d'artistes femmes qui arrivent après se réclament de cette exposition-là. Après, en ce moment, je suis en train de lire une thèse très intéressante sur les musées de femmes. Ça aussi, ça pourrait être une question qu'on peut poser. En France, il n'y a pas de musée de femmes, c'est un choix qui a été fait. Ou alors, il existe de manière virtuelle. Il y a Muséa qui existe, qui est un musée de femmes. Mais en Allemagne, il y a des musées de femmes, en Asie et en Afrique également. Donc, ça passe aussi peut-être par des musées plus communautaires. En France, on a plus fait le choix, justement, d'exposition sur les femmes, mais pas forcément de musées dédiés majoritairement à la vie ou à l'histoire des femmes.
Maybe I just add one thing to that. We've talked about institutions and curators and those sort of networks. One of the, I think, the other area that has been profoundly influential for me is the artists themselves. And conversations with artists that I've had since probably the 1980s. I think that the first really powerful conversation I had with about the exclusion of women from art history was with in the 80s when I was talking to those women who felt they were excluded, people like Lubaina Himid and Sonia Boyce, who felt they were doubly excluded from art history. But since then, many of my discoveries about interesting artists have come through conversations with artists. So I'm thinking about people like Magdalena Abakanovic, who I met in the 80s, or Phila Di Barlo, who I've known for many years, or they are art, or Anna Lupash in Cluj. When you interview artists about their histories, they tell you the artists who moved and inspired them. And it's no surprise that very often those powerful women were inspired and mentored by powerful women who were also invisible. So they're these wonderful networks, both locally, but as Camille said, transnationally. It's really interesting that the transnational conversation around fiber art, from Delhi, Marilina Mukherjee, to New York, to Annie Albers, back to Abakanovic, is they all knew each other. And if they didn't know each other, they knew their work. And that conversation with artists and the support those artists have given you, Rachel Whiteread, yes, do it. It's fantastic. That's what nourishes us, I think, really, is that it's not just about art history, it's about women's lives now, old women and young women.
Merci beaucoup. Je crois qu'on n'a pas de questions, mais je voulais juste rebondir sur vos interventions là et sur quelque chose que vous avez aussi dit toutes les deux, sinon toutes les trois, sur la question de l'histoire. Camille, vous avez dit que vous aviez l'impression à un certain moment que toutes ces femmes avaient laissé des traces finalement pour que les historiennes et les historiens à venir puissent les réintégrer à l'histoire, tout simplement. Mais en fait, c'est la définition de l'histoire elle-même, en dehors de la question des femmes, en fait, cette question des traces et de la relecture qu'il nous appartient d'en faire dans le présent. Et Frances Maurice, vous avez employé ce terme d'architecte de l'histoire de l'art aujourd'hui. Et voilà, vous êtes toutes aujourd'hui les architectes de cette histoire de l'art nouvelle et plus inclusive qui est en train de se faire.